Grand reportage.
Lorsque les rebelles du Front révolutionnaire uni attaquent un village à l'est de la Sierra Leone le 23 mars 1991, personne n'imagine l'horreur qui va s'en suivre. Le groupe multiplie les exactions sous prétexte de vouloir libérer le pays de la corruption. L'enchaînement de violences fera 120 000 morts et de nombreux mutilés et traumatisés. Depuis, les armes se sont tues, mais les séquelles restent vives. Sierra Leone, le long chemin vers la paix, c'est un grand reportage de Christina Okello.
Un juge du tribunal spécial pour la Sierra Leone énumère les crimes contre l'humanité visant un haut gradé du Front révolutionnaire uni, viol, atteinte à la dignité, enrôlement forcé. L'enregistrement a été diffusé ce matin à l'intention d'un public féminin, convié dans un grand kiosque en béton à la campagne. Nous sommes à Beaumaru, un village à l'est de la Sierra Leone, 30 ans après le début de la guerre civile. Jatulahi, en tenue traditionnelle, le regard lointain, se souvient du jour où le conflit a éclaté.
Les rebelles ont attaqué Beaumaru un samedi, puis lorsqu'ils sont revenus une deuxième fois, ils ont tué beaucoup de gens.
Le monument aux morts, dressé face à ces lieux de rassemblement, surnommé Kolbari par les Sierra Leonais, l'atteste. C'est pour éviter les erreurs du passé que Patrick Fatoma, coordinateur du tribunal résiduel spécial pour la Sierra Leone, est venu sensibiliser ces femmes sur les raisons pour lesquelles la guerre a éclaté. Une guerre qui couve toujours, selon lui.
Lorsque la commission Vérité et Réconciliation a terminé son rapport en 2004, elle a listé certaines des causes de la guerre. La corruption, l'injustice, l'absence de droits de l'homme dans les communautés, la pauvreté et un très faible niveau d'éducation, voire aucune éducation dans certains cas, mais aussi le fait qu'il n'y avait pas une bonne répartition des ressources naturelles. J'ai donc demandé aux femmes ici si, après la guerre, ces causes avaient disparu. Elles m'ont répondu « Non, 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 en fait, elles sont revenues. »
Pour comprendre la genèse du conflit, nous sommes retournés sur des lieux emblématiques. Kalaang, là où la guerre a commencé. Kono, la région minière qu'il a alimentée avec les diamants du sang. Puis Freetown, la capitale, le théâtre de l'invasion des rebelles à l'apogée de leur pouvoir. Mais d'abord, pourquoi cette guerre?
À cette époque, la Sierra Leone vivait dans les ténèbres.
Eldred Collins, ancien porte-parole du Front révolutionnaire uni.
Des ténèbres économiques, des ténèbres politiques. Le pays était arriéré dans tous les domaines et avait besoin de changement. Mais nous ne pouvions pas y parvenir par des moyens pacifiques parce que la seule méthode que connaissait le gouvernement à l'époque, c'était la violence.
Un ancien caporal de l'armée, Fode Sanko, qui combattait alors dans les rangs du mouvement rebelle NPFL au Libéria, prend la tête du RUF.
Fode Sanko decided for us to launch a guerrilla warfare.
Fode Sanko a décidé d'entamer une guérilla contre ceux qui avaient des armes pour apporter le changement dont on avait besoin à cette époque. Nous avons voulu cette guerre parce que la situation dans notre pays était difficile. Il n'y avait pas d'espoir, pas d'argent, pas de nourriture. Partout, c'était la pénurie. Nous vivions vraiment dans les ténèbres. Et c'est pourquoi nous avons lancé cette révolution contre l'armée.
So, we decided to launch a revolution against the army.
Le 23 mars 1991, Fode Sanko lance ses troupes, renforcées de mercenaires recrutés au Libéria et au Burkina Faso, à l'assaut de l'est du pays. Le RUF attaque Kalaang, région frontalière du Libéria. Alhaji Jussu Kosia, la soixantaine et les traits tirés, est assis dans sa véranda. Il était au même endroit lorsqu'il a entendu le premier coup de feu.
Dès les premiers bruits de coups de feu, ma famille et moi avons fui dans la forêt. Nous avons compris dès ce moment-là que la guerre était arrivée. Nous avons passé toute cette première journée dans la forêt et certains de nos proches ont été portés disparus. Nous sommes revenus le lendemain. À notre retour, une femme âgée avait reçu une balle. Elle a été transportée dans la ville de Segbema, où elle est décédée.
Pas loin de là, Makone, installé devant sa maison, entend encore le bruit de bottes sur la route poussiéreuse par laquelle les rebelles sont passés.
Nous n'avions jamais connu la guerre avant. Nous avons cru que les rebelles étaient des voleurs. Tout le monde courait dans tous les sens. C'était la confusion totale. Certains ont fui vers la Guinée. D'autres, comme moi, sont partis au Libéria.
Vendée Gobosokalon, chef du village de Bomaru, n'a pas pu partir. Pris entre deux feux, le rebelle du RUF d'un côté, les forces gouvernementales de l'autre.
Bomaru, du jour au lendemain, est devenu un champ de bataille aux mains des soldats et des rebelles, dont chacun cherchait à être le maître. Je n'ai pas quitté le village pendant toute cette période parce que je ne pouvais pas m'enfuir. Il ne restait qu'une poignée de gens. Les deux factions nous obligeaient à travailler au champ pour les nourrir. Nous n'avons survécu que grâce à Dieu. Toutes les maisons que vous voyez avaient été réduites en cendres.
La descente aux enfers est aggravée par l'instabilité politique. En 1992, une junte militaire, dirigée par le capitaine Valentin Strasser, prend le pouvoir. Deux coups d'État auront lieu en 1997 et 1999 et entraînent le déplacement des milliers de gens.
Mon père a été arrêté, la guerre s'intensifie encore.
Yasmine Jussou-Chérif, ancienne secrétaire exécutive de la commission Vérité et Réconciliation, raconte comment cette période l'a marquée.
Mes proches venaient tous se réfugier chez nous, à Freetown. La maison était pleine et toujours plus de réfugiés affluaient. Peu de gens à Freetown ont compris ce qui se passait. Et je crois que le gouvernement essayait de cacher la vérité, si je me souviens bien. Il ne nous disait pas vraiment la vérité sur les opérations militaires. Mais parce que nous avions des témoignages des personnes déplacées, nous avons compris que quelque chose d'anormal se passait. En Sierra Leone, vous aviez régulièrement des accrochages. Et vous savez, la population était préoccupée à l'idée qu'il puisse y avoir ce genre d'éruption de violence. Mais là, c'était quelque chose de différent.
Les signes d'inquiétude se confirment dans le village de Tombodou, à Kono, pas loin de Kalaang. Convoitée pour ses ressources minières, la région deviendra le lieu de trafic illicite de diamants, le nerf de la guerre.
Tombodou a été prise pour cible parce que la région de Kono avait les plus grands stocks de diamants et d'autres minerais.
Ibrahim Bokari, chargé de ressources naturelles à l'ONG Search for Common Ground.
C'est une région stratégique. En prenant Kono, les rebelles avaient un capital politique.
Le discours humaniste du RUF cède bientôt la place à une volonté féroce de contrôler les diamants, qui fait plonger les communautés minières dans un véritable enfer. Sagebese Babanjo, chef du village de Tombodou, témoigne.
Quand Dieu nous a envoyé les diamants, c'était d'abord une bénédiction. Puis le RUF est arrivé, les rebelles ont tout creusé, routes, ponts, ils ont exploité tous ces endroits à l'affût des diamants. Depuis, nous n'avons plus d'espoir. Nous ne parlons plus de diamants comme une bénédiction. Les diamants, Dieu nous les a donnés pour que la communauté puisse en profiter. Mais à cause de la guerre, la plupart des gens n'ont pas eu d'autre perspective qu'aller dans les champs. Tout a été exploité par le RUF. Nous n'avons plus d'espoir. Les diamants, c'était une bénédiction, mais nous n'avons pas pu en profiter.
Au cours des 11 années du conflit, le Front révolutionnaire uni multiplie les exactions. Mutilations, enrôlement d'enfants soldats, fosses communes. Et à la fin de la guerre, il s'est rejoint par d'autres factions armées. Toutes se disputent la maîtrise du territoire sierra-léonais. 30 ans après, les armes se sont tues, pas la mémoire.
De 1991 à 2002, notre nation a subi l'une des guerres les plus atroces. Une guerre que nous nous sommes infligés à nous-mêmes.
Patrick Fatoma, coordinateur du tribunal résiduel spécial pour la Sierra Leone, que nous retrouvons à Freetown. Le tribunal, désormais fermé, s'est partiellement transformé en musée pour préserver la mémoire de la guerre civile.
Le musée de la paix est un lieu de mémoire où l'on apprend à participer et à construire une Sierra Leone où la paix serait durable.
Accompagner ce processus de reconstruction a été l'objectif du tribunal spécial pour la Sierra Leone entre 2002 et 2013. Son but, mettre fin à l'impunité. Le tribunal inculpe 13 personnes, issues des trois groupes armés, y compris un ancien chef de l'État, Charles Taylor, du Liberia. Mais le fait d'inculper seulement 13 personnes sur 45 000 combattants a suscité des critiques. Fatmata Binta Mansare, greffière du tribunal, répond.
Le tribunal spécial a été créé pour que répondent de leurs actes ceux qui portent la plus grande responsabilité des crimes commis contre le peuple de Sierra Leone depuis novembre 1996.
Circonscrit aux événements survenus après le 30 novembre 1996, date du premier accord de paix, le mandat du tribunal se limite seulement à la poursuite des gros poissons. Mais cette cour spéciale laisse filer les commandants intermédiaires. Fatmata Binta Mansare.
Il n'y a qu'un mandat très réduit, parce que si vous regardez la nature de la guerre, il y a eu beaucoup d'enlèvements, beaucoup de combattants involontaires. Si vous dites alors que vous tenez 45 000 personnes responsables de la guerre, vous serez toujours là à compter les responsables. Est-ce que cela donne au pays une chance de consolider la paix ? Il s'agit d'un mécanisme de justice transitionnelle qui n'a pas pour but d'obliger tous les auteurs des crimes à rendre des comptes, car il faut laisser une chance à la réconciliation et à la paix.
Le recours à la justice transitionnelle ne convainc pas tout le monde. De retour dans le village de Tombodou à Kono, Ibrahim Bokari de l'ONG Search for Common Ground reproche au tribunal d'avoir sacrifié la justice au nom de la réconciliation. En guise de preuve, il nous montre l'une des plus importantes fosses communes creusées durant la guerre, le Savage Pit, du nom du commandant qui avait dirigé le massacre, le colonel Savage. Cette ancienne mine de diamants ressemble aujourd'hui à un lac.
Des témoignages mentionnent ce fait marquant. 200 personnes ont été couchées par terre. Un véhicule Land Rover a été utilisé pour leur écraser la tête. Et dans cette fosse, 1000 personnes ont été enterrées. Pour ces gens-là, la justice n'a pas été rendue. Si vous regardez ce qui s'est passé, la plupart des hauts commandants militaires, ceux qui servaient dans l'armée, n'ont jamais été jugés. Savage était l'un de ces individus. Il était en fait un membre de l'armée sierra-léonaise. Il n'a jamais été jugé. Dans une large mesure, seuls les rebelles et les combattants de la défense civile ont été traduits en justice devant le tribunal international, ce qui représente une sorte d'injustice.
À cause de l'absence de preuves, le colonel Savage, comme d'autres militaires, n'a jamais été inquiété. Ibrahim Bokari.
La plupart d'entre eux sont toujours en poste et vivent en toute tranquillité. Le pire est que les amputés, ceux qui ont été mutilés, souffrent et personne ne parle d'eux.
Ce sentiment de frustration, Mohamed Tarawali le ressent.
Quand on marche dans les rues, on voit des centaines d'amputés et de blessés de guerre et dus à la mendicité.
Aujourd'hui président de l'Association des amputés et des blessés de guerre, Mohamed a été amputé de ses deux bras lors de la prise de Freetown le 6 janvier 1999. Sa chemise longue a du mal à cacher deux moignons au poignet, signe encore visible du conflit.
We fall ambush to the rebel.
Ce sont plus de 200 rebelles qui nous ont tendu une embuscade sur la route, tuant les gens sans pitié. Ils étaient environ 9 et ils m'ont coupé les mains. À l'époque, ils disaient, allez voir le défunt président Kaba, allez voir le gouvernement pour qu'il vous donne de nouvelles mains. Ce n'est pas facile.
Pas facile de faire le moindre geste, comme tenir son fils sans aide. Dans le camp des amputés de Waterloo à Freetown, les histoires comme celle de Mohamed se répètent. La plupart attendent une pension mensuelle promise par l'État, mais jamais versée.
Nous pouvons pardonner, mais nous n'oublierons jamais, parce que notre situation nous renvoie au passé. Beaucoup d'amputés et de blessés de guerre souffrent encore dans ce pays.
Une situation qui risque de freiner la reconstruction et la réconciliation. Dans un autre camp des amputés, celui de Doma, à Kono à l'est, Kumba Pessima, vêtu d'un pagne noué autour de sa taille, berce sa petite fille dans la cour de sa maison. Elle n'a qu'une main, la gauche.
Durant la guerre, j'habitais le district de Sowa avec mes deux jumeaux, un garçon et une fille. Mon fils avait 26 ans. Le jour de l'attaque, nous étions à la maison. Les rebelles sont venus, soi-disant parce que mon fils était soldat. Mon fils a tenté de les convaincre que non, mais les rebelles n'ont pas voulu l'écouter. Ils l'ont poignardé sous mes yeux. Lorsque j'ai essayé de m'interposer entre eux pour sauver mon fils, l'un des rebelles m'a coupé le bras.
Ses deux autres fils ont été enrôlés comme enfants soldats par la RUF. À ce jour, elle est toujours sans nouvelles d'eux. Depuis la fin de la guerre en 2002, plusieurs ONG ont tenté de faire dialoguer les victimes et leurs anciens bourreaux en s'appuyant sur une tradition sierra-léonaise, la Fambul Talk, une sorte de discussion familiale fondée sur l'aveu et le pardon. Mais Kumba, les larmes aux yeux, explique que c'est difficile.
On nous a dit qu'il faut pardonner aux auteurs des crimes pour tourner la page. Et j'essaye. J'essaye.
La réintégration des anciens combattants, notamment des enfants soldats, a été l'une des étapes les plus complexes du processus de paix, reconnaît Yasmine Yusu Sherif de la commission Vérité et Réconciliation.
Il y avait des endroits où ils n'étaient pas acceptés. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup d'endroits où les gens ont fini par comprendre que les circonstances ont contraint les gens à faire des choses terribles et qu'ils ne le faisaient pas toujours de leur plein gré. Parfois, ils étaient forcés par les circonstances. Donc je crois qu'il y a eu une certaine réconciliation.
Aux abords de l'une des plages de Freetown, Anthony Oscar, en maillot de foot et short, joue avec sa fille de 3 ans. Il a été enfant soldat.
Les rebelles m'ont pris à mon âge de 9 ans.
J'ai été enlevé à l'âge de 9 ans par les rebelles. On m'a mis une arme dans les mains contre mon gré. Je recevais des injections de drogue par mon commandant et je n'avais plus ma tête. Avant que je prenne l'arme, ils ont tué 4 de mes amis devant moi. J'ai eu peur et je me suis joint à eux.
Le vent de la plage soulève les vêtements suspendus dans la cour de la maison d'Eldred Collins, l'ancien porte-parole du RUF. Collins minimise le rôle du mouvement rebelle dans l'enrôlement des enfants soldats.
Toutes les factions impliquées dans la guerre doivent être tenues pour responsables. Toutes les factions qui avaient une arme à l'épaule dans ce pays sont responsables. Même les forces de l'ECOMOG, de la CDAO, elles ont la plus lourde responsabilité dans certaines atrocités qui se sont produites à Freetown, en tuant des personnes innocentes, en disant qu'elles étaient du RUF, alors que ce n'était pas vrai. Nous espérons que de tels événements ne se reproduiront plus jamais en Sierra Leone, et nous demandons à nos dirigeants de penser à leur peuple et non à eux-mêmes. Car ils sont les éléments les plus corrompus. Ce sont eux qui nous ont poussés à la guerre, à faire des choses qui ne sont pas correctes.
To do things that are not correct.
Un premier aveu, Anthony Oscar, ancien enfant soldat, lui, s'exprime avec remords.
Oui, j'ai des regrets parce qu'à cette époque, j'ignorais ce que je faisais. Mais avec le temps, je peux dire que oui, j'ai perdu beaucoup de membres de ma famille. Nous n'avions pas conscience de la gravité de nos actes. On nous disait de tuer. Aujourd'hui, certains d'entre nous vont à l'église. Nous demandons à Dieu de nous pardonner. Et nous savons que Dieu nous pardonnera parce que nous n'étions pas nous-mêmes.
Anthony a pu intégrer une maison d'accueil fondée par un prêtre italien et désire aujourd'hui tourner la page. Il est métis, né d'un père allemand et d'une mère sierra-léonaise. Il veut maintenant partir à la recherche de ses origines.
Désormais, je veux retrouver mon père. Je suis allé à l'ambassade d'Allemagne pour chercher des informations sur lui. Je porte son nom, il s'appelle René Oscar. La guerre est terminée, je veux avoir de ses nouvelles. Ce n'est pas que pour moi, j'ai 2 enfants. Ils veulent connaître leur grand-père.
Sierra Leone, le long chemin vers la paix, un grand reportage de Christina Okello, réalisation Pierre Chaffange.